Peut-être pensez-vous qu'une fois marié, le couple est solide comme un roc et qu'il est inutile d'y passer trop de temps. C'est vraiment ce que je vous souhaite, mais croyez-moi, c'est difficile. Est-ce que je suis pessimiste ? Non, réaliste. Nos vies quotidiennes sont remplies d'activités et de passions qui peuvent faire courir de grands risques aux amoureux. Nous nous appelons Aurélie et Joseph, et après une première saison consacrée à la préparation au mariage, nous sommes ravis de vous accueillir dans la saison 2 du podcast « Se marier et durer » consacré à la vie des vrais couples.
Dans ce podcast, nous rencontrons le père Pierre-Marie Castaignos, serviteur de Jésus et de Marie et accompagnateur de couples depuis plus de 20 ans, pour aborder les sujets qui peuvent fragiliser ou consolider l'amour. Cette première mini-série est dédiée à la colère. Difficilement maîtrisable, elle est dans certains cas une indignation nécessaire et dans beaucoup d'autres, la cause de nombreuses blessures. Avec ce deuxième épisode, nous entrons dans le dur. Comment gérer sa colère, la sienne ou celle de son conjoint ? Si l'on verra qu'il y a des colères nécessaires, dans de nombreux cas, elles peuvent être évitées avec un peu de stratégie et beaucoup d'humour. Bonne écoute. Bonjour mon père.
Bonjour Aurélie, bonjour Joseph.
Et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette mini-série consacrée à la colère et à son effet sur le couple et la vie de couple. On a vu que la colère était l'expression d'émotions qu'on ne maîtrise pas. Et l'expression d'émotions qui, pour le coup, sont neutres. Une émotion, on n'est pas responsable de la manière dont on la reçoit. Elle n'est pas condamnable. Ce qui est condamnable, c'est la manière dont on va réagir à ces émotions. Ce sont les actes qu'on va poser en réponse à ces émotions. Mais pour arriver justement à maîtriser ses actes, à maîtriser ses paroles suite à l'arrivée d'une émotion, et dans ce cas précis de la colère, il faut qu'on soit capable de lire en soi-même le fait que la colère est en train d'arriver. Quels sont les outils qu'on a, que ce soit des outils de l'ordre du psychologique, du théologique, du même du philosophique, quelles sont les ressources à notre disposition pour apprendre à lire un peu en soi et à comprendre la manière dont la colère arrive chez nous?
Alors, c'est vrai qu'il y a des colères qui nous surprennent, voilà, qu'on n'a pas vu venir. Maintenant, je me dis, par rapport à ça, je me rappelle toujours cette phrase de mon maître des novices qui vraiment était un saint homme de Dieu, etc. Et il disait, si le premier mouvement vous a échappé, que le deuxième mouvement qui consiste à demander pardon ne vous échappe pas. Je n'avais peut-être pas prise sur le premier mouvement qui fait que j'ai eu un agacement, une exaspération. Ça m'a pris, mais voilà, comme la moutarde me montonnait sans que je le voie venir. Alors ça, c'est là-dessus, bon... Je n'ai pas trop de solutions, parce que ça peut être des situations très différentes. Là. Maintenant, je trouve qu'il y a parfois des blessures. Ce qui est autre chose, là, c'est plus du point de vue psychologique aussi. C'est, je sais que dans telles circonstances, de façon récurrente, je me mets en colère. Parce que quand j'ai l'impression d'être rejeté, quand j'ai une blessure d'abandon, quand j'ai eu une blessure par rapport à l'auto-estime de moi-même, etc., et que je me retrouve dans une situation qui me remet comme dans les circonstances où je, et donc là, je pense que ça fait partie de la connaissance de soi-même, qui vient aussi de la vie spirituelle. Faisons le lien entre les choses. Pour moi, c'est pas ou la dimension psychologique ou la dimension spirituelle. La dimension spirituelle m'aide le Saint-Esprit. Si je suis à l'écoute du Saint-Esprit, dans une humilité, dans une attention à ce que je vis. Vous rappelez très bien Saint Ignace de Loyola. Par des émotions, c'est très moderne, alors qu'on parle de plusieurs siècles en arrière, Saint Ignace de Loyola, par des émotions pour nous emmener dans la relation avec le Seigneur. Donc, c'est intéressant d'être attentif à ce qui était source de blessure en moi, qui fait que ça engendrera de façon assez systématique quand je me retrouve dans une situation où je suis questionné, par exemple, où je suis mis de côté, etc. Systématiquement, je sais que voilà, du coup, je suis en présence d'une blessure. C'est pas pareil que quelque chose qui vous surprend, qui vous saute au visage et que vous n'avez pas vu venir. Donc, je pense que là aussi, il y a un discernement par rapport à la colère, parce que ce qui est source de blessure, et c'est là où j'ai une responsabilité. On peut pas être, encore une fois, on peut pas être qu'une victime. On ne peut pas dire, ben, je sais parce que, je sais pas quoi, on m'a bercé trop près du mur, que je suis comme ça, etc. Ou parce que je n'ai pas été, ou ma mère m'a laissé. Bon, on ne peut pas être qu'une victime. Je pense que là aussi, nous avons le choix de prendre les moyens de nous soigner, les moyens d'avancer humainement, de nous construire. Et je crois que c'est cette question-là du discernement par rapport à nos colères, quand est-ce qu'elles se produisent, et d'avoir une certaine humilité de reconnaître. Ça veut dire qu'on n'échappera pas à un travail sur soi-même de la main du Seigneur. Ce travail-là, il se fait vraiment de la main du Seigneur. Dans notre vie spirituelle, on demande au Seigneur, dans nos confessions, on demande au Seigneur peut-être pardon pour les colères que l'on aurait pu éviter, qu'on a vu venir, mais auxquelles on n'a pas forcément réagi à temps, on n'a pas pris des stratégies, parce qu'on reviendra après sur les stratégies, pour les éviter.
Quelle est la meilleure attitude à adopter face à un conjoint colérique?
Alors, j'ai eu à accompagner des couples où lui était colérique. Et le diable, c'était un garçon qui faisait bien 1m90, etc. Il est facilement 100 kilos, extrêmement grand barbu, etc. Et qui parfois, premièrement, je pense que. Avant que je sois un conjoint, on est fiancé et il y a un discernement. Est-ce que je suis capable de vivre avec une personne qui est colérique ? C'est-à-dire, dont c'est de façon assez récurrente une des manières d'agir. C'est ça que ça veut dire, colérique. C'est-à-dire que ça se répète de façon assez habituelle. N'oubliez pas que lorsque vous choisissez un conjoint, vous choisissez un futur père, une future mère pour vos enfants. Et donc, le fait de choisir un futur père, une future mère pour vos enfants va être aussi un critère de discernement. Donc, je veux dire, en amont du mariage, je trouve ça important de se poser la question, est-ce que je suis capable de vivre avec une personne qui... Bon. Maintenant, la personne qui est colérique, je trouve ce qui est intéressant, c'est que le couple peut être une vraie chance. Peut être une vraie chance pour cette personne, dans le sens où peut l'aider à, s'il est humble, parce que ça a à voir beaucoup avec l'humilité, de se remettre en cause et de se dire, ben, au fond, j'accepte que tu me dises, ben, qu'on puisse se dire les choses. Il y a une manière de parler aux enfants, il y a une manière... On peut très bien faire sentir son autorité sans lever la voix, par exemple. Uniquement par le regard, par exemple. Le regard peut être une manière est-ce que c'est juste de l'exaspération qui provoque ma colère, etc. Donc, face à un conjoint colérique, je dirais il y a des stratégies à adopter et surtout lui dire, mais si tu as besoin d'aide, fais-toi aider. Et c'est là où on a une liberté. On n'a pas forcément une liberté par rapport à ce qu'on ressent, mais on a une liberté à ce qu'on met en place pour pouvoir que ce ressenti ne vienne pas parasiter la vie de couple et la vie de famille. Vous voyez. Donc, je pense que est-ce que j'ai l'humilité d'aller demander de l'aide, de frapper à la porte de quelqu'un, d'un professionnel, par exemple, qui m'aide à travailler ces questions-là?
Alors, je voudrais revenir plus en détail sur la notion de stratégie d'évitement que vous avez évoquée. À la fois la stratégie d'évitement pour la personne colérique lorsqu'elle sent la colère monter, mais également la stratégie d'évitement et de protection du conjoint, qui, en plus, dans beaucoup de situations, doit protéger les enfants.
Aussi, voilà. Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour ces stratégies d'évitement avant que la colère n'explose, pour aider vraiment ces personnes-là à...
Là où le couple a une vraie chance, c'est qu'on peut se donner, par exemple, entre soi, des signaux. Concrètement, on se dit, ben, on croise les bras, on fait comme ça, on croise les mains, on dit stop. Vous voyez, on sent que soi-même ou l'autre, stop, ou alors on se dit, ben, on se prend dans les bras, je vais dans tes bras, parce que je sens que, en fait, c'est beaucoup la colère, c'est lié à l'angoisse, à l'anxiété. Dans les personnes colériques, c'est lié souvent à l'anxiété, une anxiété. Voilà, mais du coup, le couple est une vraie ressource pour lutter contre. Donc, de se donner des signaux, l'autre, de se donner, ou soi-même, de dire, écoute, va pas là, stop. Voilà. Et même pour les enfants, on peut leur dire, écoute, stop. Et un geste peut être plus fort qu'une parole. Un geste avec un regard qui est affirmatif, est beaucoup plus fort qu'une parole, parfois, avec un ton élevé. Donc, du coup, et puis, pour la personne qui est elle-même colérique, je trouve que d'anticiper, c'est-à-dire que je sens, si elle a une suffisante... Il y a le colérique qui a travaillé sur lui, il y a le colérique qui n'a pas travaillé sur lui. Il y a le colérique brut de fronderie et il y a le colérique qui, lui, a peaufiné un peu sa réaction pour que être juste plus vivable par rapport à l'autre et aux enfants, etc., et au couple. Voilà, mais celui qui a travaillé, qui a, du coup, il aura des stratégies qui dira soit la stratégie de l'humour, parce que l'humour désarçonne beaucoup les colériques. Donc, soit la stratégie de l'humour, soit une stratégie d'évitement qui fait que je change de sujet. Voilà, c'est parce que je sais que si je vais là, et puis dans le couple, on sait très bien, il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer. On le sait très bien. Il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer parce que c'est des boutons qui sont sensibles. Je parle de ma famille, si tu parles de ma famille, si tu parles de ceci, si tu parles de cela, si tu parles de notre niveau de vie, si tu parles de tes parents, si tu parles de... Bon, il y a des choses qui sont... n'appuient pas là-dessus parce que tu sais très bien où ça va aller. Donc, c'est là où le conjoint a aussi une liberté de ne pas mettre... l'autre dans une situation qui va faire qu'il n'a pas d'autre sortie que la colère. Quoi. Donc c'est en amont anticiper et désamorcer.
Et justement sur la réaction du conjoint, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles le conjoint de la personne colérique peut chercher à se protéger lui-même et à protéger les éventuels enfants qui sont là aussi. Mais quel est un petit peu le sens de tout ça au cœur du mariage chrétien, dans la mesure où la colère, c'est aussi une forme de vulnérabilité de la part de la personne qui l'exprime. Du coup, quel est le où mettre le curseur oui. dans cette protection ?
C'est vrai que c'est une forme de détresse même. Plus que vulnérabilité, je dirais, les personnes qui sont colériques, c'est les personnes qui sont en détresse. Qui demandent de l'aide. Et alors, c'est difficile de donner un... Parce qu'il peut y avoir des colères qui sont pathologiques, d'y avoir des personnes avec la maltraitance, etc. Alors là, du coup, on rentre dans un autre registre qui a à voir avec la loi, etc., et de se protéger et protéger les enfants, etc. Mais quand c'est une personne qui est en détresse, de rejoindre... Et c'est là où le couple... De rejoindre la détresse de l'autre, de dire, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Je comprends ce que tu vis. Ce que tu dis là, moi, je le comprends. Je pense qu'il fait sortir de la détresse, c'est des paroles. Et ce qui, au contraire, accentue la détresse, c'est le manque de paroles. C'est-à-dire que j'ai des paroles qui font que je rejoigne l'autre et qui le... Quelque part, des paroles et des gestes. Des paroles et des gestes, voire prendre dans les bras... caresser le visage, mettre la main sur l'épaule, etc., etc., qui vont rejoindre, qui font que l'autre n'est plus dans une... Bien souvent, il y a des colères qui sont mues par des formes de solitude, des sortes de... La personne est dépassée, quoi. Donc, je trouve, voilà, ça peut être... Le couple a une vraie aide, en tout cas, de ce point de vue-là, je trouve, c'est de toucher la vulnérabilité de l'autre, quoi.
Est-ce que la colère peut être bonne pour le couple et la famille ? Donc, est-ce qu'il y a des situations, typiquement l'indignation, dans lesquelles la colère est nécessaire ?
Alors, oui, si on s'attaque, par exemple, à votre couple ou à votre famille, qu'il y ait une colère, et le manque de colère serait un problème. Donc, quelqu'un manquerait de respect par rapport à l'un des deux conjoints et que l'autre, en public, par exemple, serait moqué et que l'autre se sent... sans que son conjoint va du côté des moqueurs, par exemple, alors que c'est quand même assez grave. Voilà, c'est plus qu'une moquerie, c'est voir une forme de mépris public qui a été fait, et que je ne réagis pas, là, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. Là, il y a péché. Si on peut demander pardon pour des manques d'indignation. Hein, des manques d'indignation. Parce que l'indignation, c'est la colère vue de façon positive. C'est-à-dire, je m'indigne face à une... Il y a eu une injustice. Mon conjoint a été, voire humilié, par exemple, publiquement. Et je n'ai pas répondu. J'ai laissé faire. Parce que c'était dans ma famille. Parce que je n'ai pas osé m'opposer à mon père, à ma mère, par exemple. Et j'ai laissé faire mon père et ma mère humilier ou traiter plus bas que terre ou brocarder ou voilà mon conjoint alors que je sais très bien que ça lui procure beaucoup de peine et que déjà cette personne, mon conjoint a peut-être pas une grande confiance en lui en elle et du coup si je voilà je trouve que l'indignation je trouve que c'est quelque chose qui est quelque chose de beau et de grand. Il y a Stéphane Hessel, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a écrit un petit feuillet là qui s'appelle Indignez-vous. C'est quelqu'un qui je pense peut-être maintenant décédé, je ne sais pas, mais qui était à un grand âge, qui était compagnon de la libération, qui a eu des livrés, des grands combats, etc. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, rien de grand s'est créé sans indignation. Parce qu'il y a eu, face aux droits civiques des Afro-Américains, par exemple, avec Rosa Parks, dans les années 50, qui n'a pas laissé sa place dans un bus réservé aux Blancs, mais qui est restée assise, etc. Bon, on voit des personnes, on voit Lech Wałęsa, plus proche de nous, on voit des personnes qui se sont érigées face à des pouvoirs, face à des situations injustes. Alors on sort du couple, mais je trouve que dans le couple, il peut y avoir une sorte d'indignation aussi, de s'indigner de la manière dont Dieu est traité, par exemple. On peut très bien, comme couple, s'indigner ensemble. Et si on est témoin d'une moquerie, voire d'un blasphème, d'un manque de respect envers des croyants, voire d'un encouragement à la discrimination religieuse, etc. Ne pas réagir, c'est abonder dans le sens de celui qui est dans cette attitude-là, quoi.
Et alors là c'est la colère lorsqu'on est en colère ensemble contre une force extérieure. Mais est-ce qu'il peut être bon aussi de se mettre en colère l'un contre l'autre de temps en temps ?
Oui, parce que ça fait prendre ça une prise de conscience. Tu ne te rends pas compte que là, tu es en train de gâcher notre couple. Bon, si vous dites ça de façon très puissante. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, sors de ton aveuglement. Et c'est là où l'autre est. Et je te le dis, par amour pour nous et pour ce que nous avons construit, etc. C'est par amour. Et c'est là où on voit qu'une chose, c'est la colère qui est un emportement qui nous dépasse. Il y a des colères qui sont des décisions. Je peux décider de me mettre en colère. Je te le dis, il faut que ça cesse. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Voilà, donc, alors, avec un ton, voire plus fort, etc., mais tout en sentant l'autre dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'il peut s'arrêter, il ou elle peut s'arrêter de parler, etc., elle n'est pas sous le coup de la colère. Il y a une vraie injustice et on nomme l'injustice. Et on nomme l'objet qui est injuste. La manière dont tu te comportes avec telle personne ou avec tel enfant, c'est injuste. La manière dont tu réagis avec moi dans telle circonstance, c'est injuste. Ouvre les yeux. Et je crois que ça peut être aussi, ça veut dire, alors là aussi, comment l'autre reçoit la colère. Colère légitime, indignation de son conjoint. Il faut que ce soit argumenté. Il faut que ce soit, qu'on puisse dire, là, dans telle circonstance. Alors là aussi, soit c'est l'escalade symétrique. J'en rajoute, etc. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Je n'accepte pas d'être... Est-ce que j'accepte d'accueillir dans les paroles de l'autre ce qui me remet en cause ? Donc, ça veut dire quoi ? Une humilité l'un envers l'autre. Une humilité, et ça, c'est une valeur profondément chrétienne. C'est Jésus nous appelle à une certaine humilité mutuelle entre chrétiens, et dans le couple en particulier. Voilà, c'est ce que dit Saint Paul, soyez soumis les uns aux autres par amour du Christ. C'est-à-dire, soyez dans une humilité les uns par rapport aux autres par amour du Christ. C'est-à-dire que j'accepte qu'on me fasse des remarques. Et je trouve que c'est pareil, vous voyez, je fais souvent la comparaison avec la vie religieuse. Moi, je suis dans une vie communautaire, etc., avec les frères. Mais on a des remarques parfois. Attention, la manière dont tu agis, ce n'est pas correct. Peut-être que je ne m'en étais même pas rendu compte. Vous voyez, on a tous un point aveugle. On a tous un angle mort dans notre vie. On ne se voit pas en train d'agir. on ne se voit pas en train de... parce que c'est normal, parce qu'on ne peut pas se filmer en permanence, même malgré toute la mode des selfies, etc. Bon, mais on ne se voit pas en train de... On ne voit pas, et puis on n'est pas dans le cœur de l'autre. Comment l'autre réagit face à ma manière de faire? Est-ce que ça provoque de la peur? Est-ce que ça provoque de l'angoisse? Il y a un point... Parfois, je n'ai pas du tout le désir de blesser, et finalement, je blesse. Du coup, si le fait d'envie communautaire, par exemple, c'est le rôle du prieur dans une communauté, le rôle du supérieur de veiller à la communion, mais aussi de ce qu'on appelle la correction fraternelle. Mais écoute, là, quand tu as dit ça, ça m'a gêné, ça m'a blessé. Du coup, je fais un point sur moi d'introspection, d'une certaine manière, d'examen de conscience. Et je me dis, tiens, ben oui, là, je n'avais pas du tout pensé que ça pouvait... Et c'est comme ça qu'on grandit. Je trouve que c'est comme ça qu'on grandit en se faisant des réflexions, mais qui sont mues par l'amour, c'est-à-dire qui sont mues par le désir de communion. Et je dirais même au-delà, dites-vous, en tout cas dans une vie de couple, dites-vous l'un à l'autre, n'hésite pas à me corriger si tu vois des choses qui font mal, parce que je ne m'en rends pas compte forcément. Ça peut être le ton de la voix, ça peut être la force des gestes, ça peut être... n'hésite pas à me dire, tiens, tu sais, quand tu fais ça, quand tu te mets dans une situation comme ça, voilà comment les autres réagissent.
Merci beaucoup, mon père.
Merci à vous deux.
L'épisode que vous venez d'entendre fait partie d'un podcast consacré au couple et au mariage. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Quant à nous, nous vous retrouvons sans attendre pour le prochain épisode de cette mini-série sur la colère. À très vite.